Voilà votre moment de détente. Ce sont les sports, votre programme sportif pour parler des sports en Afrique et ailleurs. Eric Manirakiza avec vous à Washington, studio 13 de La Voix de l'Amérique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du football, bien sûr, sur le continent africain. Nous allons parler du basketball au Bénin, mais il y a cette question qui divise, c'est la décision du Comité international olympique, CIO, la décision qui exonère la Russie dans la participation des Jeux olympiques qui vont commencer à Rio de Janeiro. C'est dans 11 jours. Nous allons parler de tout ça. Nous allons parler aussi de quelques transferts dans le championnat en Europe et des matchs amicaux. Eric Manirakiza va donc vous entretenir avec nos consultants sportifs. Il y a Élisée Onkpatine qui est au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Eric et bienvenue au Bénin.
Merci à Christophe Ngurunziza à Bujumbura. Christophe, bonsoir. Christophe, est-ce que vous nous entendez?
Oui Eric, je vous entends très bien.
Oui, merci. Et on aura Amedinti à Dakar au Sénégal. Mais en attendant, vous avez donc suivi, c'est Amedinti, il est déjà là. Amedine, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique.
Merci Amedine. On va commencer par ce qui s'est passé sur le continent africain. Et à Ouagadougou, il y a eu ce match comptant pour l'éliminatoire de la CAN. Et le Mali a battu le Burkina 2-0. Je vous propose de suivre l'entraîneur du Mali. Il s'appelle Baye. Écoutez.
90 minutes, le Mali est heureux par l'entraîneur seulement aujourd'hui avec 2-0. Ça a été vraiment un match très très difficile. On en a parlé. On pense que le Mali ne pouvait pas battre le Burkina ni éliminer le Burkina. Les Maliens ne sont pas des, comme l'entraîneur l'a si bien dit à Ouaga, pas une machine à broyer, mais c'est des jeunes. C'est un système que le Mali a mis en place pour former ces jeunes, pour que des jours à venir, qu'on puisse aller vraiment fournir l'équipe A dans des différentes compétitions. Depuis Ouaga, on pouvait gagner ni tété, plein de choses, surtout l'arbitrage. Ça trouve que ce match a été fini. Mais Dieu a voulu comme ça. Je félicite les jeunes, je félicite les supporters et je remercie tout le monde. L'équipe Burkinabé, c'est une très bonne équipe. Ils sont vraiment en formation. Je pense que les jours à venir, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais pour le moment, jouer contre le Mali, c'est très très difficile.
2-0, c'est donc le score du match qui a opposé les juniors maliens à ceux du Burkina Faso, comptant pour le troisième tour retour des éliminatoires de la CAN. Qui doit se jouer en Zambie en 2017. Le Mali qui se qualifie puisqu'à aller dans le match aller à Ouagadougou. Le match s'était soldé par un score nul, vierge de 0-0. Et quel est le bilan de la rencontre qu'a fait le coach du Burkina Faso, Moussa Sanogo?
Moi, je pense qu'on est mal rentré dans le jeu et on a pris un but par mi-temps. Et c'est ce qu'il fallait éviter. Je pense que les Maliens ont pas voté de l'être temps fort. En deuxième mi-temps, on a voulu encore réagir. On a encore pris un second but qui nous a carrément tétanisé. Je pense qu'ils méritent la victoire et on va se préparer pour les séances futures. Parce qu'on s'est désorganisé défensivement, parce qu'on avait voulu maintenant attaquer, parce qu'il fallait remonter le but. Donc on s'est désorganisé un peu derrière et pensant pouvoir attaquer mieux. Mais malheureusement, on a été assuré par un deuxième but qui nous a carrément tétanisé. L'équipe malienne, oh bon, je pense que c'est une équipe qui est largement au-dessus de la moyenne. C'est une bonne équipe africaine. On est sur beaucoup de champions d'Afrique.
Belle ambiance en tout cas. L'équipe nationale junior du Sénégal a décroché le ticket qualificatif à la CAN prévue en 2017 en Zambie en dépit d'une courte défaite face au Ghana 1-0 à Cape Coast. Amedine Sy revient sur la qualification des Lionceaux.
Vice-champion d'Afrique et quatrième mondial, les Lionceaux du Sénégal devaient tenir le rang en écartant le Ghana plusieurs fois champion d'Afrique et champion du monde en 2009. Il fallait le faire. Ils l'ont fait. En effet, les poulains de Joseph Kotto ont validé leur billet pour la CAN prévue en Zambie en 2017, malgré la défaite concédée sur la plus petite des marques face aux Black satellite 1-0. Mais la large victoire acquise lors de la première manche à Dakar 3-1 a pesé lourd sur la balance, car sur l'ensemble des deux matchs, le Sénégal passe. Pour le coach adjoint Malick Diaf, le rêve est désormais permis, car ces poulains ont envie de faire plus que leurs aînés.
On a eu la chance quand même d'avoir des joueurs qui jouent la Ligue 1 et la Ligue 2. Déjà, c'est une équipe. Parce que la Ligue 1 et la Ligue 2 sénégalaise, c'est à un niveau quand même. Bon, nous avons eu la chance d'avoir des joueurs qui... Et sur ce groupe-là, on a su construire un groupe. Et avec ce groupe, on a cru, on a travaillé. On les a inculpés des choses, des réalités de la haute compétition, des réalités du haut niveau. Ils ont très vite compris, ils ont appris vite. Et vraiment, les joueurs aussi avaient envie de faire ce que leurs aînés ont fait. Et c'est comme ça. Pour vouloir titiller les autres derrière la... Il faut faire une très bonne préparation. Je pense que c'est l'essentiel, c'est de bien se préparer. Le groupe est déjà là. Maintenant, il y a des choses qui nous manquent. On va essayer de voir par-ci, par-là pour renforcer les quelques secteurs, mais faire une bonne préparation pour la suite.
Après cette belle qualification, les Lyonceaux peuvent se frotter les mains, car ils vont empocher une prime de 15 millions de francs CFA promis par le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Dakar, Amédine Sy, VOA Afrique.
Voilà, c'était à Medinti. On va à Bujumbura pour retrouver Christophe Nkurunziza. Christophe, votre commentaire sur ces matchs, très rapidement.
Il y a des équipes qui sont assez outillées pour essayer d'aller au-delà. On voit très bien que la jeunesse de ces deux matchs joue leur véritable football, et c'est mieux pour la jeunesse, c'est mieux pour le football africain de demain.
Mmh. Et le niveau de performance, il est satisfaisant ?
Pour moi, je crois que, je l'ai dit toujours, il y a beaucoup de talent au niveau de la jeunesse africaine. Il y a beaucoup de talent au niveau de ces jeunes qui commencent à aller au-delà, qui commence à voir que le football, ça peut être une vie demain après demain. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose, mais il faut que ça suive, il faut qu'il y ait l'encadrement, il faut qu'il y ait des équipes juniors un peu partout en Afrique pour essayer d'égaler les autres jeunes des autres contrées.
Mmh. Élisée, vous avez suivi ces matchs, comment vous appréciez le niveau de performance ?
Une très belle performance, Eric. Il faut dire que depuis un certain moment, les autres pays qui étaient en retard par rapport à la formation de ces jeunes joueurs, des moins de 20 ans, ont compris que désormais, il faut faire confiance à cette formation, notamment le Mali et surtout le Sénégal, qui est en train de faire forte sensation depuis près de 4 ans concernant le tournoi des jeunes par rapport à la compétition nationale organisée par la CAF. Le Sénégal qui a éliminé une grande nation du football en matière d'âge, le Ghana, champion du monde des moins de 17 ans, le Ghana qui a été finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans, le Ghana au niveau des seniors n'est plus à présenter, le Nigeria qui a remporté pratiquement une Coupe du monde dans toutes les catégories, il faut dire que ce Nigeria aussi est passé à côté, le Soudan qui depuis un certain moment avec les deux plus grands clubs de Soudan, à savoir Al-Hilal et bien sûr Al-Merrikh, qui ont commencé par former des jeunes talents dans ce pays-là. Donc, c'est dire que, quelque part, ces formations ont commencé par payer. C'est vrai que la désolation est du côté non seulement du Nigeria, mais aussi du Ghana. On remarque que le Cameroun est aussi présent, le Mali, qui a pris le flambeau depuis un certain moment, puisque quand on parle de catégorie d'âge, au niveau des moins de 17 ans, des moins de 20 ans, et aussi au niveau des espoirs, des moins de 23 ans, le Mali a commencé par répondre présent depuis près de 4 ans, et même a commencé par titiller les grands du continent, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, cette formation a commencé par payer. Maintenant, l'Afrique du Sud sera aussi présente. Et surtout, l'Égypte, ancien vainqueur de cette Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Il faut dire que lors de la phase finale, on aura de la matière. La Zambie aussi n'est pas des moindres. Donc, on aura une très belle compétition d'un très bon niveau, même si le Nigeria et le Ghana ne sont pas présents.
Amédine, est-ce qu'au-delà de la victoire ou de la défaite, est-ce que les spectateurs sont-ils contents de la prestation des équipes du point de vue jeu? Amédine, est-ce que vous nous entendez? Je pense que Amédine n'est pas là. On va prendre cet auditeur qui est en ligne, Youssouf Ouedraogo. Youssouf, bonsoir.
Oui, bonsoir aux invités à la rédaction de VOA Afrique.
Oui, on parlait justement du football. Est-ce que le football, ça vous intéresse? Êtes-vous un amateur du foot?
Écoutez, moi je suis un grand amateur du foot. Mes clubs préférés, le Real Madrid au niveau des clubs et l'équipe de Côte d'Ivoire du Burkina Faso.
Oui, on parlait justement de ces éliminatoires sur le continent africain. C'est cette question que je posais à Medine Sy. Est-ce qu'au-delà de la victoire ou de la défaite des équipes, est-ce que au moins on est satisfait de la prestation au niveau des jeux, du jeu?
Bon, au niveau du jeu, notamment les équipes de moins de 20 ans, je regrette la défaite du Burkina, mais je veux dire que tout cela était assez prévisible. Bravo au Mali qui s'est qualifié aux dépens des Burkinabés. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est quand même une réussite pour les équipes qualifiées. Aucune équipe n'a démérité. Maintenant, on attend lors de la phase finale des équipes de moins de 20 ans pour apprécier le niveau qui va être proposé lors de la compétition.
Oui, Youssouf, garde la ligne, nous prenons une petite pause et puis nous revenons vers vous. Voilà, donc on va maintenant parler de l'athlétisme après cette petite pause. Voilà, vous l'avez suivi, cette décision qui divise le monde sportif mondial, le mouvement sportif mondial. C'est ce verdict qui est très critiqué, une décision du Comité international olympique qui refuse d'exclure la Russie dans les Jeux olympiques de Rio de Janeiro qui vont commencer dans 11 jours et... je vais vous lire ce que le Daily Mail a écrit le jour où ils ont détruit les Jeux Olympiques. Youssouf, vous avez fait un commentaire sur notre page Facebook. Quel est votre avis?
Écoutez, Eric, moi j'ai dit que le CIO, à travers cette décision controversée, donne pleinement raison à la Russie qui a toujours invoqué des injonctions politiques incohérentes derrière les différents rapports de l'AMA, l'Agence mondiale d'antidopage, la décision finale du TAS et des critiques des capitales européennes ou autres américaines. Vous savez, cette discorde montre bien les limites des textes en vigueur et la nécessité d'un toilettage approfondi du système pour renouer avec la cohérence afin de sauver le mérite. Mais en tout état de cause, alors je pense que le dopage est un phénomène à combattre avec force dans le milieu du sport, mais cela ne doit pas donner lieu à des exceptions sélectives. Pour ce qui est de Rio de Janeiro 2016, il faut dire qu'au-delà du coup de rattrapage que tente le CIO, le mal est déjà fait. Vous avez d'un côté des athlètes russes qui seront affectés par ces polémiques.
Il y a eu déjà 7 nageurs qui ont été exclus, hein.
Pardon?
Il y a 7 nageurs russes qui ont été exclus aujourd'hui.
Notamment, c'est de cela que je parlais. Je dis, bon, ceux qui ont été sélectionnés ou autorisés à prendre part au jeu, ils arrivent en compétition très affectés par ces polémiques, tandis que les autres athlètes partie prenante auront forcément un regard méfiant les uns envers les autres durant la compétition. Et ça, c'est jamais bon pour une compétition aussi majeure que les Jeux Olympiques. Je pense qu'au-delà de tous ces problèmes qu'on évoque, c'est à la CIO, au CIO de se réorganiser pour voir sur quels critères les athlètes peuvent être sélectionnés pour les Jeux Olympiques afin que ceux qui vont sortir victorieux de ces différents Jeux puissent mériter pleinement de leur victoire.
Merci Youssouf pour votre commentaire. Il y a Verlin Mikwazia qui dit que le CIO va perdre sa crédibilité au sein des sportifs et sur le plan psychologique, ça va, selon lui, affecter la performance. Il y a Sman Si qui dit qu'il valide la décision du CIO qui ne doit pas accepter de consommer des montages, des concepts montés de toutes pièces de l'OTAN. Il parlait de l'OTAN. Et puis, il y a Diallo Tcherno, Omar Diallo, qui dit que si on faisait exclure les Russes, ce sera illégal. En tout cas, le CIO a raison. Les sportifs russes doivent être au rendez-vous. Champi Kilo dit on les excuse parce qu'ils ont été contrôlés positifs ou sur la parole de quelques individus. Ils s'interrogent. Je crois que le CIO a fait preuve de sagesse. Et Bikoliman Atade, il dit que le système sportif mondial est corrompu. Élisée, vous avez suivi cette décision controversée qui était très attendue. Votre commentaire?
Oui, Eric, la première des choses, moi, j'aimerais comprendre quel message le CIO veut-il envoyer alors que son travail est clairement de prendre des décisions cruciales et non de renvoyer la balle aux fédérations internationales. C'est dommage, Eric, puisque cette décision est mal perçue, une décision décevante. Plusieurs agences antidopage des sportifs l'ont déploré, notamment cette décision, parce que il y a d'abord cette enquête réalisée par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, révélant le système de dopage d'État dans le sport russe. Sur la base de ce rapport, l'agence avait aussitôt appelé à l'exclusion de la Russie. On se rappelle des Jeux de Rio de 2016 qui va démarrer, vous l'avez déjà dit, dans 11 jours, et 16 athlètes de tous les événements internationaux. Mais voilà, une décision a été prise. Le CIO a refusé de jouer un rôle leader déterminant. Donc, vous voyez un peu, ça peut créer beaucoup de frictions au sein des athlètes quand on sait que d'autres ont été sanctionnés et qu'aujourd'hui, on va permettre à ces athlètes russes de prendre part à ces Jeux olympiques. C'est dommage. Mais Eric, laissez-moi vous dire que suite à cette décision, il n'y a pas seulement des réactions qui sont contre la décision du CIO. Il y a aussi quelques grands, quelques barons même qui ont félicité cette décision, même si premièrement la Russie a été reconnaissante. Il faut aussi ajouter que Moscou n'est pas seule. L'ANOC, la puissante association des comités olympiques nationaux, s'est félicité que le CIO ait privilégié la justice individuelle à la responsabilité collective. Même le président des comités olympiques européens, Pat Hickney, a également signifié au CIO le soutien total de son organisation. Vous voyez, quelque part, même au sein de cette organisation, les réactions sont diverses. Donc, c'est dire que quelque part, il faut dire que ces enquêtes organisées de part et d'autre ne vont plus servir à grand-chose. Mais on attend les Jeux pour voir s'il y aura encore d'autres cas de dopage, pour voir si éventuellement le CIO est crédible par rapport à ces décisions qu'il a commencé par prendre.
Il y a d'autres commentaires sur notre page Facebook. Alphonse Mbouaki, il dit que le CIO se décrédibilise lui-même, effectivement, parce qu'il se contredit dans la décision déjà arrêtée par un de ses organes. Et Kennedy Kassai dit finalement, il y a quel virus qui ronge les instances sportives ces dernières années. Christophe, quel est votre point de vue par rapport à ce bouleversement au niveau du Comité international olympique? Parce que le dopage d'État a été avéré.
Eric, aujourd'hui le politique prime sur le sportif. Aussi longtemps qu'il y a des affaires d'État, aussi longtemps que le politique ira toujours chercher dans le sportif la bête noire pour essayer de donner une autre image de leur pays. Donc à ce moment-là, je crois qu'il y aura toujours des problèmes. Donc si le CIO a déjà constaté qu'il y a des cas avérés de dopage à travers cette sélection, moi je crois que la décision elle était unique. Il fallait directement prendre une décision pour sauvegarder le sport, pour sauvegarder l'athlétisme de demain. Donc aussi longtemps, on dirait que c'est un jeu, aussi longtemps qu'il y a tout ce qui est aux alentours du sportif, que ce n'est pas honnête, que ce n'est pas sportif, je crois qu'on est en train de se diriger vers le sportif qui n'aura jamais demain, après-demain, de temps pour essayer de voir qu'est-ce que je suis en train de donner, qu'est-ce que je suis en train d'offrir à ces milliers, à ces millions de téléspectateurs mondiaux.
Oui, évidemment, la presse mondiale est déchaînée contre le comité international olympique. Le titre du quotidien sportif L'Équipe Cinglant, il dit « C'est biblique du Ponce Pilate, de la lâcheté », affirme la presse allemande. Le feu vert accordé aux Russes est une honte pour l'olympisme, titre le Times britannique. Et le Daily Telegraph parle, lui, d'un rêve olympique en lambeaux. Et le Daily Mail, la scène, je vous le disais tout à l'heure, le jour où ils ont détruit les Jeux Olympiques. Amédine, votre commentaire par rapport à ces titres de grands journaux mondiaux?
Oui, je pense que c'est un scandale, hein, parce que si on regarde ce qui se passe avec la Russie, si le CEO ne veut pas prendre ses responsabilités, ça pose problème. Parce qu'on ne peut pas quand même donner aux fédérations le soin de voir si un athlète est propre ou pas. Non. Comme on a l'habitude de le dire, un problème quand il est bien posé, c'est à moitié résolu. C'est aux membres du CEO de prendre des responsabilités. C'est vrai que la Russie compte en sport. C'est vrai que sans la Russie, les Jeux ne sont pas ce qu'elles devaient être. Mais il faut prendre la responsabilité parce que ce qui se passe, on est en train de lutter contre le dopage. On va sévir. Quel que soit le pays, quelle que soit la puissance de ce pays, quels que soient les sportifs de ce pays, on doit sévir parce que ce qui se passe est extrêmement grave. Il y a des et même dessus, ils ont fait un bon travail. Même au finish, c'est une fuite de responsabilité pour moi, Eric.
Mmh. Oui, avant de passer au basketball, Amédine, vous avez quelques nouvelles sur les transferts les plus importants?
Ah oui, c'est vrai, sur les transferts, comme vous le savez, il y a l'affaire Drogba. Drogba, c'est vrai qu'il est proche de Manchester United. On parle finalement de 100 millions de francs CFA, mais c'est pas encore signé. Donc Drogba, qui est très proche quand même de Manchester United, l'équipe de Mourinho en a fait sa priorité. Donc on attend de voir. Il y a également Huguen qui a signé à la Juventus de Turin, déplaise à Maradona, mais finalement il a déjà signé. Donc à part ces transferts, on est en train quand même de parler de beaucoup de transferts, et on est en train également de parler de l'histoire du numéro 9 de cette même équipe de Manchester United. Il paraît que Zlatan Ibrahimovic a récupéré le numéro 9 que portait Martial, le jeune français. Il ne digère pas ça, il a digéré très mal, mais c'est comme ça. Zlatan n'est pas n'importe qui, il a pris le numéro 9 parce que tout simplement le numéro 10 est porté par un certain Wayne Rooney. Donc c'est tout ce qui se passe au niveau du foot international que nous suivons attentivement, Eric.
Oui, il y a aussi cet ailier égyptien, l'international égyptien, le jeune espoir de 19 ans qui a eu un contrat avec Stoke City, c'est en Angleterre, pour 5 millions de livres. Christophe, est-ce que vous avez des nouvelles sur quelques transferts? Très rapidement, 30 secondes.
Le grand transfert, c'est le transfert. On est en train de parler de Mahrez pour aller à Arsenal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais toujours est-il que le talent, il est toujours avec ce jeune homme qui joue véritablement au football.
Mmh. Oui, on va aller au Bénin où le basket se développe à la base, et cela constitue un grand projet dans ce pays de l'organisation de la première édition du camp de basket pour jeunes, dénommé Rebond pour l'avenir Bénin France. Ce camp regroupera des jeunes âgés de 12 à 17 ans. Il se tiendra au stade Charles de Gaulle de Porto Novo du 25 juillet au 31 juillet 2016. Élisée Onkpatine a les détails.
Le camp Rebond pour l'avenir est articulé autour de camps de formation regroupant des jeunes joueurs, des arbitres et des entraîneurs de toutes les communes du Bénin et engagés pour la circonstance. 16 arbitres et 16 entraîneurs chargés de la formation des jeunes seront sélectionnés pour participer au camp qui verra les formateurs venus de la France, plus précisément de la Ligue de Lyon, des entraîneurs diplômés d'État et un entraîneur spécialisé dans l'organisation et à la gestion des camps de basket. En somme, Rebond pour l'avenir a organisé ce camp pour la jeunesse béninoise béninoise dans un cadre d'échanges sociaux et festifs avec un aspect humanitaire. Fawaz Ajibade, président de Rebond pour l'avenir, donne plus d'explications sur ce camp de basket.
Pour l'instant, on va essayer d'améliorer, de revoir le BABA, d'adapter le BABA à nos jeux et de pouvoir aussi adapter au BABA français. Et au bout de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et commencer déjà avec le sujet à travers ces classes sportives, à voir des pépinières du basketball.
Pour Nicolas Patin, formateur, ce camp sera un rendez-vous du donner et de recevoir.
C'est un grand honneur pour nous d'être là et on vient sur le premier camp Rebond pour l'avenir, voilà, essayer de donner quelques conseils, prendre aussi des choses du basket africain. En une semaine, on ne va pas tout révolutionner, non, mais on va amener quelques touches, voir où ça en est. On espère prolonger ça sur plusieurs années.
Dans la même logique, pour Claudia Dupont, seule dame de la délégation, cette présence au Bénin répond à un souci, celui de participer à la promotion de cette discipline en renforçant les capacités des jeunes apprenants.
On est venu ici pour aider un petit peu à la promotion du basket au Bénin. Il s'agira exactement de promouvoir le basket, d'aider un petit peu les jeunes à se développer, tant sur le plan personnel que sur le plan vraiment du basket, sur le plan sportif. Essayer d'apporter un petit peu les connaissances qu'on a et de les faire partager ici à Cotonou.
Le camp de basketball de Porto-Novo, il faut le rappeler, c'est du 25 au 31 juillet 2016. Élisée Rumpati, Porto-Novo, VOA Afrique.
Oui, Élisée, est-ce que c'est un projet qui suscite de l'engouement en 10 secondes?
Oui, vraiment, hein, beaucoup d'engouement, il faut le dire, Eric, est là. Et pour cette première journée, il y a eu tellement de participants que même les organisateurs ont du mal à les cadrer. Une chose est sûre, le Bénin qui est en train de ne pas, même pas à la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans actuellement au Rwanda, eh bien, il faut le dire qu'ils auront très bientôt
de la matière Élisée
pour pouvoir construire
merci
une bonne équipe.
Merci Élisée pour toutes ces précisions. Merci à Medine Si, à Dakar. Merci à Christophe qui est à Bujumbura. Eric Manila Kiza vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci à Fred Ner et José qui assurent la mise en onde.